toi, t'as un pin sur du Dahu, quoi.
Moi aussi, hein.
Toi aussi.
Le Dahu, c'est un putain de bar qui se trouve sur la montée de la grande côte. Et quand tu ressors, t'as encore plus de courage que quand t'es rentré, en fait. C'est un endroit un peu magique.
C'est un endroit spécial. Quand tu arrives, tu vas chercher à la cuisine ce qui reste à manger parce que l'atelière et sa maman cuisinière sont en train de boire le café, vient de finir le service, toi t'es en retard. Et du coup, tu leur fais un café et tu te sers tout seul. Et tu paies quand t'as des sous et tu demandes pas de noter parce que de toute façon il éclaira tout le monde que tu payeras. C'est vraiment un endroit familial, comme à la maison. Ça, là, je vais me mettre dans un pain à pleurer. Ouais, c'est vraiment spécial, quoi.
Tu rentres, t'es vide, tu ressors, t'es rempli.
C'est un peu le principe du bar, hein, généralement.
Oui, tu ressors, t'es plein.
Oui, mais justement, c'est que là, tu peux être rempli d'autre chose que du liquide.
On n'y venait pas que pour boire au Dahu des Pentes, un café pas comme les autres, à Lyon, sur le flanc des pentes de la Croix-Rousse, un quartier historique, quartier populaire qui a subi de nombreuses rénovations, restructurations, qui font qu'aujourd'hui il s'est pas mal embourgeoisé, même s'il est toujours classé comme zone urbaine sensible. Mais dans ce quartier, un certain nombre d'habitants se veulent garants de la continuité d'un certain esprit populaire issu de l'histoire des canuts, ces ouvriers de la soie lyonnaise qui firent la Révolution et même une commune avant celle de Paris au 19e siècle. Letty, la tôlière du Dahu des Pentes, en faisait partie de ses résistants. Elle affichait petit prix, qui t'a pas beaucoup se rémunérer. Les murs garantissaient la mémoire des luttes des habitants des années 70 avec des slogans comme « La Croix-Rousse n'est pas à vendre ». Et le café, avant d'être un commerce, était avant tout un lieu de rencontre où les débats politiques se revendiquaient bien plus intéressants que ceux de l'officiel conseil de quartier, où on se fichait des lois qui interdisaient le tabac et où on affichait la solidarité avec les bars de nuit sans cesse harcelés, même si le Dahu, lui, était un couche-tôt. Le Dahu a fermé ses portes l'été dernier et juste avant il y a eu une fête et Letty, le lendemain, nous a raconté l'histoire de son café et à travers celle-ci, l'histoire du quartier. C'est la dernière du Dahu des Pentes, à Lyon.
Salut.
Salut.
Eh ben, Laetitia, je suis née, j'ai grandi place du Pont à la Guillotière. Je suis fille de commerçante, ma maman a pendant 35 ans une boutique de lingerie Place du Pont. Donc moi je suis née dans un commerce, quand j'étais petite j'aidais ma mère dans la boutique. Donc ouais, de toute façon j'ai ça dans le sang. Ouais. Sauf que je ne suis pas une très bonne commerçante, mais ma mère ne l'était pas non plus. Bah, je ne suis pas une commerçante au sens calculer ses marges, maîtriser ses coûts et faire des gros bénéfices, quoi. Je calcule, ça c'est sûr, je fais les comptes, mais je fais les comptes pour que ça passe. Je fais pas les comptes pour m'enrichir. Et puis le métier de la restauration, c'est celui de mon père, donc je crois que j'ai fait un mélange des deux, en fait. Mon père était gérant du bar américain, donc une grande institution, on fait le service traditionnellement, avec le litho sur le poignet, le plateau, on fait des courbettes aux gens et tout. Moi j'ai appris ce service-là, en fait. Et tu vois comme il s'est transformé.
C'était un point géodésique. C'est un endroit qui est repéré par la science et qui définit un endroit dans l'espace. Dans ce cas-là, c'est ici, rue Burdeau, à cet angle. Voilà ce que c'était pour moi. Le centre des pentes, là où sont les gens que j'aime. C'est toujours un endroit particulier, qui est en plus extrêmement militant, l'air de rien. Et donc, du coup, c'est vraiment un vrai rad, un rad. C'est-à-dire un lieu où on vient boire, parler, se sociabiliser, on va dire. Enfin, vraiment un point géodésique. Voilà.
J'ai traversé le Rhône pour aller travailler rue Sainte-Catherine à l'Albion. Et puis, j'ai plus jamais quitté le quartier. J'ai remonté les pentes petit à petit. Donc, c'est en 96, 97, quelque chose comme ça. Ouais. Et c'est là que je commence à rentrer dans l'univers du bar. J'avais jamais bu d'alcool. Pratiquement, j'ai pris ma première cuite, je crois que j'avais 20 ans. Enfin bon, je ne connaissais pas les pentes, je ne connaissais pas la fête comme ça. Et puis ça me plaît, tout simplement. Et puis de l'Albion, je passe à l'Inconnu, qui était monté de la Grande Côte, au-dessus du Troxon. C'était un établissement qui était beaucoup fréquenté par des Sénégalais, des Antillais. Il y avait une super ambiance, beaucoup de solidarité, parce que évidemment beaucoup de gens sans papier, etc. Et j'ai découvert une autre vie, des trucs qui se passaient autour de moi, que j'avais jamais réalisé et pris la portée, en fait. Je fréquente en même temps, à l'époque, le Baroque, donc anciennement mon établissement. Et je dis au propriétaire, je dis, bah, cherche un endroit. Il m'a dit, je vends. Et je crois qu'il s'est passé 3 secondes dans ma tête. J'ai regardé l'endroit, j'ai regardé l'escalier, j'ai regardé le comptoir. J'ai dit, OK, je prends. Je n'ai même pas demandé combien. Ça a coûté 75 000 euros. Et c'est juste le fonds de commerce, c'est-à-dire que j'ai racheté la clientèle, la licence 4 et puis le matériel. Par contre, j'ai un loyer pour les murs, qui était ridicule, mais absolument ridicule. C'était 250 euros par mois. Détail.
C'était un endroit où ça réunissait des gens qui se préoccupaient du quartier, de l'avenir du quartier, de faire des choses un peu alternatives dans le quartier, etc. Il y avait un petit côté mémoire aussi avec les vieilles affiches sur les luttes qu'il y a pu avoir avant à la Croix-Rousse. Et du coup, je trouvais que c'était pas rien que ce lieu-là il soit porteur de quelque chose. Et ça fait toujours un peu chier un bar comme ça qui ferme, quoi. Parce que ce qui rouvre, c'est pas toujours dans la même dynamique.
Dans cette rue, tout ce qui restait à faire, c'était ça. T'as plus un épicier, il y a que des galeries et tout, rue Burdeau. Mais en fait, maintenant, on va se rassembler où, tu vois ? Merci la politique immobilière.
Quand j'ai ouvert ici, c'était un jeudi. Quand Julien est arrivé de son travail, il m'a retrouvé en larmes dans la cuisine. Le premier jour, j'avais été menacée par 2 personnes qui m'avaient dit « on te fera faire faillite, on te rachètera ». C'était des promoteurs immobiliers. Depuis la réhabilitation, ou quand il y avait le projet de la restructuration, il y avait des gens qui savaient déjà que les biens, les murs allaient prendre de la valeur et qui avaient déjà fait leur programme, quoi. Et d'ailleurs, j'ai été victime d'un promoteur immobilier sur les murs de l'établissement, hein. Ma propriétaire a vendu les murs pour 50 000 euros, c'est-à-dire une misère, à un gars qui m'a envoyé tout de suite un nouveau loyer multiplié par 4 et m'a proposé de les racheter pour 150 000 euros, sans même avoir mis un coup de peinture, en me laissant sans électricité, sans chauffage, sans rien dans l'appartement. Et du coup, j'ai fait une procédure au tribunal contre lui, quoi. On attend encore que le tribunal fixe le montant du loyer. Ça dure depuis 2009, c'est des procédures qui sont longues, il y a des expertises, etc. Et c'est au tribunal de fixer le nouveau montant du loyer. Il y a beaucoup d'opportunistes dans ce quartier qui ont racheté des tas de trucs et qui ont fait des plus-values, des jolies plus-values, quoi. Dans les années 70-80, on a réhabilité tout le haut de la Grande Côte, qui était à l'époque, c'est vrai, pleine de ce qu'on appelle aujourd'hui de bidonville. C'était des appartements complètement délabrés, les gens vivaient dans des conditions indécentes. Mais on ne les a pas laissés ici, on les a éparpillés entre Vez, Gerland, Vénissieux. Les gens sont déjà... Il y a déjà eu une première vague de départ, quoi, pour la restauration. En plus, ça fait un an ou deux que les appartements qui étaient réhabilités, qui étaient sous convention, ne sont plus sous convention et que les propriétaires peuvent augmenter les loyers. Ils ne sont pas gênés et ça continue de vider le quartier des gens qui sont les plus pauvres, quoi. Et du coup, le quartier... C'est transformé en une espèce de zone dortoir où on voudrait que tout soit bien propre et bien calme.
Le DAU, c'était un endroit exceptionnel. Il n'y en a aucun comme ça à Lyon et il n'y en aura jamais plus aucun.
Il y a des cafés qui ont disparu, ouais. Beaucoup. Disparu parce que quand les services d'écologie urbaine... commence à te tomber dessus, tu sais que t'es foutu. C'est le pot de terre contre le pot de fer. On est en train de tuer le café au sens traditionnel du terme pour le remplacer par le Starbucks ou le McCafé, quoi. On nous prédit que c'est notre avenir, quand même. Ça fait flipper, hein. Des endroits complètement impersonnels, hyper lissés, où il n'y a plus d'échange d'idées, il n'y a plus de débats, il n'y a plus de rencontres. Tu prends ton café, tu l'emportes, tu vas bosser, t'es bien sage, tu restes bien tranquille. C'est hyper inquiétant, quoi. C'est hyper inquiétant.
Comment ça fonctionne ici ? Donc toi, t'es la patronne ?
Oui, oui, on peut dire ça, la patronne. Mais la patronne de personne, hein. Enfin, il n'y a pas de salarié, donc... j'aime bien la tôlière, ça me plaît. C'est pas un café alternatif, et j'aime pas être présentée comme ça, c'est juste un café de quartier, quoi. Parce que, ici, tu trouves pas de produits issus du commerce équitable. La bière est fabriquée dans l'industrie, c'est pas une bière artisanale. Tu manges pas des produits bio à midi. Pour rester dans les prix qu'on pratique, on est obligé de faire comme ça, quoi.
Après le DAU, les canaux.
J'ai eu 5 années bien noires avec les travaux de voirie. Et à chaque fois que je suis allée demander de l'aide, parce que j'en ai demandé de l'aide, que ce soit en mairie d'arrondissement, en mairie centrale, même auprès de Pierre-Alain Muet, j'ai demandé d'aide partout où j'ai pu, à la chambre du commerce. Et personne ne m'a aidée. J'ai fait une démarche amiable auprès du Grand Lyon pour être indemnisée. Évidemment, ils ont refusé. Aujourd'hui, je suis en procédure. J'ai perdu à la première audience et je vais faire appel, mais j'y crois pas un seul instant, quoi.
Depuis plusieurs années, le bas des pentes de la Croix-Rousse donne parfois l'image d'un quartier délabré, certains murs tagués, un quartier voué à la vie nocturne. Gérard Collomb et la mairie d'arrondissement ont donc décidé d'un projet de réaménagement, un projet devenu aujourd'hui une priorité.
Et encore, heureusement, j'ai eu vite une clientèle d'habitués qui s'est acharnée à venir, malgré les pelleteuses et les marteaux-piqueurs qui ont mangé dans des conditions improbables. Et grâce à eux, j'ai pu faire face aux charges obligatoires du café, mais je pouvais même pas me payer un RMI, donc je campais à l'étage du bar. On a monté une douche vite fait pour que je puisse quand même me laver, mais il n'y a pas de chauffage, il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien là-haut, quoi.
Je vois bien par exemple que les 2-3 premières rues, pour des raisons diverses, aujourd'hui sont un peu des rues repoussoires dans l'image des Lyonnais, mais aussi des touristes. Donc faire en sorte qu'il n'y ait plus cette transition un peu maudite entre d'une part le cœur de la ville et puis d'autre part le plateau de la Croix-Rousse, c'est pour nous quelque chose d'extrêmement important.
Ah bien sûr, si je m'appelais le Villemanzi, c'est sûr qu'on m'aurait plus écouté et plus aidé. T'es un établissement de renommée, tu fais du gastro. Probablement que j'aurais eu plus d'entrées. Mais il y a aussi le fait que, par exemple, quand on a créé les conseils de quartier, j'ai tout de suite voulu participer à ça, voir comment ça fonctionnait et tout. Et dans les conseils de quartier, il était beaucoup dénoncé des choses qui se passaient autour de Rupture, qui est une association qui est juste à côté de l'établissement, qui fait de la prévention et de la réduction des risques autour de la toxicomanie. Ils essaient au moins d'apprendre aux toxicomanes à se shooter proprement pour éviter qu'ils mettent leur vie en danger et celle des autres. Ils font beaucoup de travail de rue, ils font vraiment beaucoup de travail. Et j'ai entendu dire des trucs pendant les conseils de quartier à propos de la structure qui m'ont mis hors de moi. Et j'ai dit ce que j'en pensais et ça fait partie des choses qui m'ont grillé, je pense. Ouais. On m'a pris pour la gauchiste alors que... Je crois pas que c'est être gauchiste que de dire, moi je les vois travailler, ces gens-là, ils font pas de l'incitation à la toxicomanie, quoi. Et je parle de rupture, mais c'est vrai pour un tas de choses qui sont régulièrement dénoncées en conseil de quartier, oui. Parce que, t'as Médecins du Monde qui s'installe rue Sainte-Catherine, et les gens disent, oh, mais il va y avoir plein de gens malades, plein d'étrangers, de la délinquance, et puis on va avoir la gale. Il faut aller écouter ce qui se raconte dans les conseils de quartier, c'est impressionnant, hein. Et là, t'essaies de réagir, t'essaies de proposer des rencontres, et puis on t'explique que le conseil de quartier, il n'est pas là pour ça. Il faudra m'expliquer pourquoi il est là. Beaucoup profitent de voir la réhabilitation pour en réclamer encore plus en termes de sécurité, de propreté, de présence policière, de caméra. Parce que je pense que déjà, ils voient la valeur de leur bien augmenter. Et puis ensuite... C'est du public à TF1, donc ils sont de plus en plus inquiets en se disant « Putain, mais il y a de la délinquance, on est en danger, il nous faut de la protection, quoi. » Après, il y a des demandes qui sont légitimes. Je pense qu'effectivement, il y a un problème autour de la vie nocturne, qu'il y a effectivement des débordements, qu'il y a effectivement des déambulations dans certaines zones qui sont extrêmement bruyantes. On a le droit de dormir, quoi. Ça, c'est évident, mais je pense que le problème n'est pas pris dans le bon sens. Tuer les licences 4, fermer les lieux, c'est pas la solution. Quand ils ont fait le projet de charte de qualité de la vie nocturne, j'ai émis des critiques, des réserves. On n'en a jamais tenu compte. On a fait semblant de demander l'avis des professionnels, mais en fait, ils s'en foutent. Ils sont là pour faire de l'habillage, pour rassurer les riverains, ceux qu'on entend le plus gueuler, en fait. Ils ont cette capacité de se fédérer et de, et de se faire entendre. Et nous, en face, on n'est pas foutu de réagir. Donc évidemment, c'est le dernier qui parle et celui qui parle le plus fort qui est écouté pour l'électorat.
Mais notre règne arrivera quand votre règne finira. Nous tisserons le linceul du vieux monde et l'on entend déjà la révolte qui grand honte. C'est nous les canuts.
Tendance politique ici, je pense que tu peux partir du MoDem jusqu'à l'anarchisme. Il y a peut-être même 2-3 UMP, c'est pas ça qui rejoint les gens. Je pense que ce qui rejoint les gens, c'est justement le débat d'idées. Des fois, t'as des sujets qui provoquent des foudres, des colères, genre la gratuité des transports en commun, quoi. Et je crois que c'est ça qui les intéresse, c'est de confronter des avis et construire le tien. Et entendre des arguments, des points de vue différents. On n'est pas tous d'accord sur tout. Mais on est dans le quotidien, on est dans l'humain, on est dans la vie, on est dans la réalité, parce que ça reste terre à terre comme sujet. On ne refait pas le monde à un niveau macroéconomique, quoi.
Les Romains avaient le forum, on avait le Dahu.
Quand on a ouvert après le passage de la loi, on a tenu à peu près un quart d'heure, je crois. Et puis Julien, comme moi, comme ma mère d'ailleurs, on est des gros fumeurs. Et franchement, aller fumer sur le trottoir dans notre établissement qui fait 40 mètres carrés, on s'est vite dit, ils commencent à nous emmerder avec leur loi à la con. Du coup, on a allumé une clope et tout le monde l'a fait. C'est pas autorisé de fumer. Moi, quand les gens me disent « est-ce qu'on peut fumer ?», je réponds « non, c'est interdit par la loi. Si la police passe, tu te prends ton amende et mon amende. C'est juste que nous, on fume, on va pas dire aux gens de ne pas le faire. » Tu sais, ils sont mignons sous prétexte de protéger ta santé. Il y a dans ce quartier des gens qui se battent contre les antennes relais en particulier, qui sont, à mon avis, réellement dangereuses pour tout le monde. Là, on ne fait pas de loi de protection de santé. Et puis on va attendre 20 ans, qu'il y ait un tas de maladies, pour dire « ah ouais, finalement, c'est peut-être pas une si bonne idée ». Il y a plein de choses, les OGM, tout ça, qu'on ne réglemente pas. On t'empoisonne un tas de trucs. Et on vient de parler du tabac. Je trouve que c'est un peu exagéré. Voilà, l'endroit est tout petit. Si tu n'es pas fumeur, tu n'es pas obligé de rentrer et boite, quoi.
Afin de préserver les dahus de l'extinction, l'Union européenne tente de l'introduire dans d'autres milieux.
Ça m'arrache le cœur, mais j'ai besoin de faire autre chose. J'ai envie d'apprendre un nouveau métier, je ne sais pas encore quoi, mais j'ai envie de découvrir de nouveaux horizons. Puis j'ai un petit garçon, j'ai envie de passer du temps avec lui. Je pense que Julien aussi a des choses à faire ailleurs, et puis il faut aussi que ma maman elle prenne enfin un petit peu de retraite. Donc je pense qu'il est temps, là, avant d'être trop blasé, trop, je sais pas, en avoir vraiment marre, quoi.
La suite pour le lieu, c'est qui va reprendre derrière?
C'est un couple de trentenaires, je les connais pas, je les ai vus quelques fois, ils ont l'air plutôt chouettes. Après, on verra ce que ça deviendra. Moi, j'ai été très précise sur l'état d'esprit du quartier, l'état d'esprit de l'endroit, mais je sais pas ce que ce sera. Ce sera la surprise pour moi aussi. Et alors, je leur ai vendu à 95 000 euros. Si ça avait été dans nos projets, on aurait pendant un an 1000 turbins. Développer le chiffre, on pouvait facilement doubler le chiffre en faisant à manger le soir, en ouvrant le samedi, développer un chiffre artificiel et puis on l'aurait vendu super cher, quoi. Mais c'était pas dans nos projets de créer de l'inflation encore plus.
Écoutez, moi je crois que je suis jamais allé à un enterrement aussi joyeux, ça me fait plaisir.
C'était la DER du Dahu des Pentes, café populaire des Pentes de la Croix-Rousse à Lyon.
Un reportage d'Olivier Minot.
Aujourd'hui, le café est devenu un bar à tapas avec des petits cactus sur les tables et tout un troupeau de Dahu ne sait plus où manger le midi. Un grand merci à Letty et big up à tous les pantards qui seront jamais rassasiés de fêtes et de révolutions. Salut!